Wagon Libre est de retour sur les ondes du 90.5. Bonsoir à toutes et à tous. Comme prévu, votre magazine littéraire vous propose la deuxième partie du compte-rendu d'une grande fête du livre au cœur du vignoble bourguignon, Livres en Vigne, 5e édition qui s'est tenue les 29 et 30 septembre dernier entre Beaune et Dijon, au château du Clos de Vougeot, bâti par les moines de Citeaux. Cet ensemble architectural unique est classé monument historique depuis 1949 et il est le chef d'ordre de la confrérie des chevaliers du Tastevin. De même que les vignerons ont fait leur vendange, eh bien nous aussi, sans hôte, mais à notre manière, nous avons fait notre petite sélection parmi 90 auteurs et une dizaine d'éditeurs bourguignons. C'est vous dire que notre émission ne peut pas tous leur donner la parole. Mais au programme, Frédéric Mollet, prix du Quai des Orfèvres, meilleur polar de l'année en 2007, Olivier Barrault, François Huguenin pour Les Voies de la Foi, paru chez Perrin, une synthèse pour comprendre plus de 2000 ans d'histoire du catholicisme d'Occident. Sans oublier Jean-François Kahn, toujours aussi truculent pour La Catastrophe du 6 mai 2012, publié chez Plomb. Pour débuter notre rendez-vous, j'ai invité Alain Quévès à monter à bord de notre wagon-livre. Alain Quévès est le créateur en 2004 des éditions Rhubarbe installées à Auxerre. Et je lui ai demandé de nous informer des dernières publications qui viennent grossir le catalogue des éditions Rhubarbe.
Alors la principale nouveauté, c'est que les nouveautés sont à paraître parce que je préfère laisser passer la rentrée littéraire des grands éditeurs et quand les premiers livres seront repartis aux offices, je viendrai avec quelques nouveaux titres. Là j'ai deux nouveautés, une en nouvelle, un très beau recueil de nouvelles de Joël Bassot qui s'appelle Tango Revolver, qui est une suite de dialogues de sourds. Soit de dialogue de sourds, soit de monologue, mais en fait ce sont des paroles qui n'arrivent pas, soit parce qu'elles ne sortent pas, c'est le principe du monologue intérieur, soit parce que ce sont des dialogues de sourds et ce sont des gens qui se parlent, un mari, une femme, une mère, son fils, et qui parlent de la même chose, mais qui ne sont pas dans le même monde. Et donc pour le lecteur, c'est tout à fait fascinant de voir ces dialogues qui s'entrecroisent, hein, une page, deux pages. Et on voit bien de quoi chacun parle, et on comprend chacun les protagonistes, et on comprend aussi qu'ils ne parviendront jamais à se parler. Et c'est un petit peu dur, un petit peu tragique. Il y a deux, trois nouvelles qui sont plus cocasses, mais c'est presque de l'humour noir. Voilà. Donc Tango Revolver, pourquoi Tango Revolver? Parce que le tango, c'est aussi une danse à la fois d'affrontement, de séduction, de...
On s'attire, on se repousse.
On s'attire et on se repousse. Et c'est vraiment l'esprit de ce recueil-là. Donc Joël Bassot est une nouvelliste qui a publié deux, trois autres recueils chez divers éditeurs. Mais elle est encore en pleine progression. Voilà. Oui, à l'Harmattan. Elle a publié de la poésie aussi. Et c'est une auteure d'Auvergne, Clermont-Ferrand.
Voilà, donc c'est Tango Revolver, recueil de nouvelles aux éditions Rhubarbe. Alors cette fois-ci, poésie, parce que Rhubarbe, finalement, c'est les deux grandes lignes éditoriales de Rhubarbe, la poésie et les nouvelles.
Voilà, la vraie ligne éditoriale de Rhubarbe, c'est le texte court. Alors qui dit texte court dit soit, comme disait Molière, soit de la prose, soit du vers. Donc je fais les deux. Alors Poésie réalité de Lucien Vasselin. Lucien Vasselin, c'est un auteur qui là par contre est déjà bourlingué pas mal, qui est journaliste, éditeur dans le nord de la France, et qui là je publie Poésie réalité. Alors les deux mots sont effectivement antagonistes ou sont considérés comme étant antagonistes.
C'est l'occasion de réviser ces figures de style d'ailleurs.
C'est ce qu'on appelle un oxymore. Poésie réalité, ce qui est poétique n'est pas réel et ce qui est réel n'est pas poétique. Alors on va dire que dans ce recueil, ce sont en réalité des petites proses. Ce ne sont pas des vers, pas rimés en particulier, mais ce ne sont même pas des vers, ce sont des petites proses. Et Lucien Vasselin a fait une espèce de tour de France, même quelques excursions en Belgique et dans d'autres pays, mais essentiellement en France. Un tour de France un petit peu désenchanté, c'est-à-dire que moi, j'ai pensé en lisant, en découvrant ce manuscrit, à Robert Doisneau, le photographe, qui avait le chic, l'art de voir le petit détail cocasse, le petit détail poétique dans une scène du quotidien. Il est dans un univers qui a tout pour être poétique, et il repère le détail réaliste qui, quelque part, plombe l'ambiance, ramène sur terre, désenchante, ramène aussi à la réalité sociale, parce que Lucien Vasselin est un auteur engagé, on va dire, qui a des opinions bien affirmées, qu'il revendique, et qui voit dans l'espèce de féerie que pourrait être le monde à chaque fois le poids, la patte de l'économie, du politique, du préjugé, en fait toutes sortes de choses qui ramènent effectivement malheureusement sur Terre. Donc poésie, réalité, c'est bien poésie d'abord et on revient à la réalité. Donc moi je l'appelle un road movie parce qu'on passe par un peu toutes les régions de France. Et à chaque fois, on est confronté à cette réalité. Alors que la réalité, c'est aussi le temps, c'est aussi l'âge. Parfois, ce sont des endroits qu'il a connus jeunes, et il y revient 20, 30, 40 ans plus tard. Et forcément, 40 ans plus tard, on voit cette marque du réel qui a changé le rêve de l'enfance. Ce qu'on a connu, ce qui est resté dans la tête comme un endroit merveilleux. Et bah oui, bah, y a une bretelle d'autoroute maintenant. Il y a une déchetterie, il y a un supermarché, ce genre de choses. Une friche industrielle, voilà. Donc c'est un petit peu cet esprit-là. C'est je viens avec des yeux d'enfant et je ressors adulte. Et c'est aussi cette leçon de lucidité, d'une certaine manière, que l'auteur nous propose.
Donc très prochainement chez nos amis libraires, Poésie Réalité de Lucien Vasselin, aux éditions Rubab. Et puis alors Alain, nos auditrices et auditeurs se rappellent sans doute avoir croisé une revue intéressante chez les libraires, toujours, une revue carré, de format carré, et qui a pour titre Carré. Alors, le premier numéro, c'était un carré noir sur lequel était écrit Carré en blanc, et une nouvelle version, un numéro 2, va prochainement paraître, enfin, il est sous presse actuellement.
Il est sous presse et il sera rouge. Donc, carré rouge, on va y parler beaucoup, on est en Bourgogne, donc il sera question de vin, il sera question de sang, il sera question de politique, il sera question d'histoire, il sera question de rugby aussi, avec un superbe article sur pourquoi le maillot de rugby des Gallois est-il rouge, et ainsi de suite. Donc de la poésie, de la prose, des chroniques, de l'histoire, des aphorismes, tout ce qui a fait un petit peu l'esprit de Carré Noir va se retrouver. En même temps, on a peut-être tiré quelques leçons de ce premier numéro. Et ce qu'on a également développé, c'est les contributeurs, puisque après la parution du premier numéro, nous avons reçu beaucoup d'articles et de propositions venant de partout en France. Donc c'est un numéro qui sera un tout petit peu moins bourguignon, parce qu'on a des contributeurs maintenant qui viennent de partout en France, pour un numéro rouge qui sera quand même, je le pense, passionnant, parce que le rouge, c'est aussi la question de la couleur de la passion.
Le créateur des éditions Rubarbe, Alain Quévès, à notre micro. Toute l'actualité de Rubarbe est sur son site internet www.edition-rubarbe.com. Alain Quévès est également poète, critique littéraire. Hein, il contribue à un certain nombre de magazines de critique littéraire, notamment la revue de poésie Des Charges de son copain Jacques Morin. Il est aussi nouvelliste et il a notamment reçu le prestigieux prix Prométhée de la Nouvelle en 1997 pour Le Geste manqué de l'amant. Son dernier recueil de nouvelles a pour titre « Ce n'est pas mon visage », il est paru en mai 2011 au Bruit des autres. On attend d'ailleurs un prochain texte d'Alain Quévès dans les mois à venir. Nous ne saurons pas d'ailleurs si la rhubarbe et ses feuilles monstrueuses s'harmonisent bien avec les grands crus bourguignons et autres subtils flacons. Frissonnons avec Frédéric Mollet pour son dernier polar Déjeuner sous l'herbe, paru chez Fayard, qui commence par des fouilles archéologiques au parc de la Villette. Et voilà l'horrible découverte. On mènera l'enquête avec l'auteur juste après la pause. Voici Annabelle et son Fuis Laurence d'Arabie. C'était en 1987. Bonne soirée sur Radion, à bord de Wagon Libre, votre émission littéraire.
À Auxerre, 95.
Figurez-vous qu'Annabelle, que vous venez d'entendre, est la fille de Mouloudji. Place au suspense et au frisson, puisque nous rencontrons cette fois Frédéric Mollet, auteur de Polar. Elle nous présente une nouvelle enquête de Nico Zirski, son personnage, chef de la brigade criminelle du Quai des Orfèvres. Frédéric Mollet lève le voile sur Déjeuner sous l'herbe, récemment paru chez Fayard Noir.
En fait, une image m'a inspirée en juin 2010 dans la presse, celle du déterrement du tableau piège de Daniel Spoerry, qui est un artiste qui a marqué les années 60 et qui est toujours en activité, très connu des amateurs d'art, qui a fait partie du courant des nouveaux réalistes aux côtés de Cézanne, Niki de Saint-Phalle, Tinguely et tant d'autres. Et c'est un monsieur qui a eu l'idée dans les années 60 de créer ce qu'il a appelé des tableaux pièges, à savoir à chaque fin de repas, coller les restes de repas sur un plateau accroché au mur comme des toiles de maître. Donc reste de repas, ça veut dire assis assiettes, bouteilles, verres, couverts, déchets alimentaires, etc. Il est d'ailleurs l'inventeur du Eat Art aux États-Unis et dans le monde, c'est-à-dire l'art autour de la nourriture. Et lassé de répéter à l'infini son geste, dans les années 80, il a décidé d'enterrer, au sens vrai du terme, son dernier tableau piège grandeur nature. Et il a organisé un banquet performance, c'était un banquet, 120 personnes triées sur le volet. J'en ai rencontré quelques-unes, donc j'ai appris que des voisins étaient venus pour participer à ce banquet, sans y avoir été invités au départ, dans les Yvelines, en région parisienne. Et il a enterré, à la fin du repas, ce banquet, les tables, les chaises, la nourriture, les restes de les couverts, enfin tout ce qui composait ce buffet, ce banquet, avec l'idée absolument incroyable de pouvoir en déterrer une parcelle 20 ans plus tard. Et ça s'est passé en juin 2010. 25 ans plus tard, en réalité, 27 ans plus tard, 5 mètres carrés ont été déterrés, il y a eu des photos dans la presse. Alors, pas déterré dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire que les scientifiques, l'Institut National d'Archéologie, les plus grandes facultés de France, des scientifiques étrangers sont venus pour essayer de mettre au point des calculs, pour établir une comparaison entre ce qui avait été réellement enterré, ce que l'on déterrait, quelle échelle de différentiel on pouvait mettre en place, qu'on pouvait peut-être appliquer à des déterrements vieux de centaines de milliers d'années. Enfin bon, une expérience absolument incroyable qui a dépassé les cadres de l'art, mais bien sûr avec une question existentielle et artistique en fond, est-ce que l'art survit au temps, enfin bon, les choses comme ça. Et bien sûr, l'auteur de Polar, très modeste que je suis par rapport à toute cette aventure artistique, quand j'ai vu ces images de ce déterrement, forcément j'ai vu le cadavre qui n'aurait jamais dû s'y trouver.
Et forcément, en même temps qu'on déterre ce tableau piège, on y trouve un squelette.
Et voilà.
Squelette humain.
Et oui.
Et qui s'avère.
Il ne faut pas trop en dire, mais en tout cas, l'aventure démarre de...
En revanche, ce qui est formidable, c'est qu'on y apprend énormément de choses sur le site de la Villette, et notamment sur l'histoire, puisqu'en fait, s'y trouvait, à une époque, le gibet de Montfaucon.
Oui, alors, effectivement, je passe rapidement, parce que là, l'intrigue est la plus importante, mais effectivement, je passe sur l'histoire de cette commune de la Villette, hein, qui a été rattachée à Paris. Ce site, ce parc de la Villette m'a inspiré. C'est pas l'endroit où a eu lieu pour de vrai l'enterrement du tableau piège de Daniel Spoerry. C'est là qu'intervient la part de romanesque. Ce parc m'a inspiré parce que j'ai trouvé que c'était le bon cadre, à la fois scientifique, culturel, pour accueillir ce faux déjeuner sous l'herbe de l'auteur de Polar que je suis. Et donc, bien entendu, ça me permet à la fois de revenir sur l'histoire de ce parc, qui est une histoire assez incroyable aussi.
Alors, bien sûr, c'est la cité du sang, puisqu'ils ont été installés, les abattoirs. C'est à l'époque du 19e siècle, sous Napoléon III.
Exactement, et puis qui ont perduré, hein, parce que le dernier bœuf abattu, c'était en 1974. Et alors là, petit clin d'œil dans le roman, l'un des personnages de mon intrigue précédente, puisque je reprends dans ce tableau, dans ce déjeuner sous l'herbe, mon héros maintenant récurrent, le commissaire Sirski, chef de la brigade criminelle du 36. Et dans sa deuxième enquête, ce commissaire a croisé un préparateur de corps à l'université de médecine Paris 5, ancien boucher de la Villette. Donc c'est une manière aussi d'établir le lien d'un roman à l'autre.
Alors ce qui est aussi absolument impressionnant, c'est la description de l'autopsie que vous faites. Je renvoie les lecteurs aux pages 45-46. Procurez-vous le livre auprès de vos libraires. Donc c'est aux éditions Fayard. Et puis, bien évidemment, parallèlement à ce squelette retrouvé sur le site de la Villette dans le tableau piège, alors qu'il n'aurait jamais dû se trouver au milieu d'une œuvre d'art, il y a à côté de cela des agressions d'hommes sur le site de la Villette qui ont tous une particularité, c'est qu'ils sont tous homosexuels.
Oui.
Et ils sont alors généralement tués, il n'y en a qu'un qui en échappe, ils sont tous blessés, et qui d'ailleurs va conduire jusque... Ces jeunes homosexuels sont agressés et ils ont l'épaule en partie découpée et prélevée.
Eh oui, morsure humaine, voilà. Eh oui, c'est un polar, quoi.
C'est un polar.
Des choses un peu dures par moment, Bien sûr.
Alors, on ne va pas trop en dire, mais par exemple, avec vous, on devient spécialiste de l'anthropologie judiciaire. On apprend aussi ce qu'est le bertillonnage. Est-ce que je peux vous demander, Frédéric Mollet, d'expliquer aux auditrices et auditeurs de Wagon Livre, émission littéraire de Radion, ce qu'est le bertillonnage?
Ça vient de M. Bertillon, qui, à une époque un peu reculée, a mis en place les techniques de la police scientifique d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, Il a fait démarrer cette police scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, donc c'est un monsieur qui a marqué l'histoire de la police et de la police scientifique, notamment.
Et alors, évidemment, la synergologie, c'est aussi très intéressant. C'est ce qui nous trahit, en fait. C'est un petit peu le message des gestes quand on se frotte le bout du nez, quand on se gratte le lobe de l'oreille. Cela peut être interprété, et notamment quand on est en garde à vue.
Bien sûr, et puis il y a des répercussions de médecine légale, hein, c'est-à-dire la manière dont une morsure est réalisée, l'endroit où elle est appliquée, tout ça permet un certain nombre de déductions, bien sûr.
Alors, vous saviez que vous aviez 206 os avant d'écrire ce roman ?
Ah, j'en apprends aussi, vous savez.
Parce que vous remerciez beaucoup de monde à la fin de ce pot-là, donc vous documentez, vous allez chercher beaucoup d'informations.
Oui,
il faut quand même si l'histoire est pure fiction, il faut tout de même qu'il y ait du vraisemblable, bien évidemment, pour donner crédibilité à ce que l'on écrit.
C'est toute la définition du roman policier, d'ailleurs. C'est vraiment un genre qui mêle le romanesque au réalisme. Je m'y tiens, et c'est à la fois passionnant de rencontrer des gens sur le terrain. Alors, bien entendu, la police criminelle de Paris, bien entendu, la police scientifique, bien entendu, des médecins légistes, mais à la fois des milieux qui croisent mon intrigue d'une manière ou d'une autre, en l'occurrence pour le déjeuner sous l'herbe, les milieux culturels, ceux qui dirigent le parc de la Villette, voilà, donc ce sont des rencontres assez incroyables pour moi. Déjà, il y a une belle aventure humaine, et puis j'apprends bien sûr à entrer dans les détails, à pouvoir abonder mon intrigue de ces détails techniques qui permettent, pourquoi pas, d'arriver au coupable.
Quels sont vos projets actuellement ?
Bien, je suis sur la prochaine enquête de mon commissaire. Voilà, donc une nouvelle intrigue, un peu forte. Enfin, on n'aime jamais parler trop à l'avance de son prochain roman. Donc voilà, une intrigue qui revient un peu plus à la dureté de la septième femme, peut-être. Voilà.
La dernière phrase du polar est la suivante. La lutte du bien contre le mal ne connaissait pas de respire.
Oui, c'est vrai que je suis un auteur. J'ai beaucoup aimé plus jeune et encore aujourd'hui, ça peut paraître un peu idiot, mais les Marvel, les héros des Marvel Comics. Bon, Spider-Man, Superman, Batman, voilà. Donc c'est vrai que j'ai un univers qui est marqué par ces héros, par le combat du bien contre le mal. Voilà, donc c'est vrai que je suis faite pour créer des héros positifs. C'est-à-dire que mon personnage, il a ses ennuis, comme nous tous, la vie quotidienne, la vie moderne. Voilà, c'est un homme qui est divorcé, qui heureusement fait la rencontre d'une femme
qui
est dans le milieu médical, qui a à charge un adolescent, lui-même. J'explore ses origines familiales, puisqu'il est russe par sa mère qui est un personnage fort de cette série, un personnage auquel je tiens. Enfin, donc, mais à la fois, c'est un héros positif, c'est-à-dire c'est un monsieur qui... comme vous, comme moi, je l'espère, comme la plupart des gens, essaie de faire le mieux possible. C'est pas un être torturé, c'est pas du tout. C'est un être entre guillemets normal, plutôt bon, qui essaie de ne pas juger son prochain, qui essaie de voilà d'avancer dans la vie de la meilleure manière qui soit. Ce qui n'empêche qu'à côté de ce héros, il y a les intrigues qui font référence aux actes les plus horribles que l'homme peut émettre.
Frédéric Mollet, à notre micro lors de Livres en Vigne le 29 septembre dernier au château du Clos de Vougeot pour évoquer son dernier polar, Déjeuner sous l'herbe, paru chez Fayard Noir. Une nouvelle escale, en chanson, à mon avis en totale adéquation avec le frisson et le suspense qui dominent le polar en général, je vous retrouve avec Jean-François Kahn, présent à la 5e édition de Livres en Vigne. Le truculent journaliste expliquera à notre micro pour quelle raison le 6 mai dernier, date de l'élection de François Hollande, demeurera dans l'histoire comme une véritable catastrophe. Réponses et explications argumentées après Blues Trottoir, un soir de pluie.
un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passent sans me voir. Une insomnie qui tourne en cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrer pas trop tard. De toute façon, je voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un genre gangster vient m'accoster, joue le mystère pour m'épater. Là sous la pluie, il veut bavarder. Ses petits ennuis me donnent la nausée. De toute façon, moi ce que je veux, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir de pluie.
Bonne soirée sur votre radio locale. Vous écoutez Wagon Libre, votre émission littéraire chaque mercredi sur le 90.5 en modulation de fréquence dans Lyon ou en direct via internet sur le www.radion.fr. Comme je vous l'avais annoncé, et je sais que vous êtes nombreux à vouloir comprendre, voici l'entretien enregistré le 30 septembre dernier à Livres en Vigne avec Jean-François Kahn, qui signe chez Plon un ouvrage intitulé « La catastrophe du 6 mai 2012 », très critique pour la gauche élue. Alors, pourquoi une catastrophe ? Jean-François Kahn, à notre micro.
Je pense que c'est une catastrophe, ne serait-ce qu'à cause du résultat. Aujourd'hui, dans la situation où est la France, il faut des rassemblements. Il faut mobiliser, disons, 60% du pays. Il faut redresser ce pays. Ce pays va très très mal. Ce pays, aujourd'hui, est dans une situation, je dirais pas catastrophique, mais pré-catastrophique. Et donc, il faut mobiliser vraiment au-delà des clivages. On n'est pas en guerre civile, je veux dire, on doit être patriote, il faut absolument que ce pays retrouve son élan.
Alors c'est ce que tout le monde demandait, Sarkozy
Oui, mais enfin, on voit dans quel état ils ont laissé le pays d'un autre côté. Oui. Bon. Or,
tout n'est pas négatif quand même dans ce café.
Je pense que le bilan de Sarkozy est calamiteux, mais tout n'est pas négatif.
Alors qu'est-ce qui est positif?
De toute façon, c'est absurde de considérer que quelque gouvernement que ce soit peut faire que du mal. Il faut arrêter aussi ça. Bon, il y a plein de choses que j'ai soutenues dans Nicolas Sarkozy.
Alors, qu'est-ce que vous avez soutenu?
J'ai soutenu, par exemple, l'autonomie des universités. J'ai soutenu le fait que les régimes spéciaux pour les retraites aient été égalisés. J'ai soutenu le discours de Toulon. J'ai soutenu le grand emprunt. J'ai soutenu beaucoup de choses. Mais le bilan est calamiteux. Et si dans 5 ans, Hollande a un même bilan, je dirais, le bilan est aussi calamiteux. C'est la même chose. Autrement dit, je dis, qu'est-ce qui va mieux?
Oui.
En 5 ans, qu'est-ce qui va mieux?
C'est la vraie question.
Or, après 5 ans de Sarkozy, quasiment rien ne va mieux. C'est pas de sa faute à 100%, loin de là. la crise y est pour beaucoup, mais rien va mieux. Et si dans 5 ans, avec Hollande, rien ne va mieux, je serai aussi net. Bon, très bien. Cela dit, le problème n'est pas de régler des comptes. Le problème, c'est de vraiment de sortir le pays de cette situation.
Parce que vous parlez quand même de bombes à retardement.
Mais parce qu'à cause de cet héritage qui remonte de loin, la gauche est aussi pour quelque chose. Les 35 heures, par exemple, c'est une catastrophe. Bon. Et donc, il fallait donc, normalement, il fallait une élection. 60% des gens se regroupent sur un candidat. Or, c'est quasiment du 50-50.
Oui, mais alors, vous savez que parfois, les gens se regroupent sur un candidat à plus de 60% quand, par exemple, au deuxième tour, il y a un candidat du Front National.
Non, mais là, d'abord, les gens n'ont pas voté à gauche, ils ont voté contre Sarkozy. Donc déjà, pour la première fois, ceux qui arrivent au pouvoir n'arrivent pas au pouvoir parce qu'on les a choisis, ils arrivent au pouvoir parce qu'on a rejeté les autres. J'ajoute une chose. Le premier tour montre que les gens ont voté en majorité à droite. Et donc, par un paradoxe inouï, la gauche arrive au pouvoir à un moment où les gens votaient plutôt plus à droite que d'habitude. Donc c'est un problème. Et donc, il faut qu'il regarde cette chose en face. Il faut qu'il regarde cette réalité en face. Il ne faut pas qu'il se raconte des blagues. Il faut en tenir compte.
Jean-François Kahn, pour qui avez-vous voté à l'élection présidentielle?
Tout le monde le sait, je l'ai dit.
Vous avez voté pour Bayrou.
J'ai voté pour Bayrou. Non pas que je sois d'accord avec lui, surtout. J'ai beaucoup de désaccords. Mais c'était le meilleur et je suis patriote. Moi, je suis patriote. Quel intérêt du pays? Tout le monde savait que dans la situation du pays aujourd'hui, c'est ce genre de personnage qu'il aurait fallu. Tout le monde le savait. Alors cela dit, il y a des gens qui s'en foutent du pays. Ils sont à droite. Il y en a d'autres qui s'en foutent du pays. Ils sont à gauche. Eh ben moi, je suis pas comme ça. Moi, même si je suis ceci ou cela, je dis, quel est celui qui aujourd'hui, dans la situation difficile dans laquelle on est, serait le meilleur pour être président de la République? Je savais qu'il serait pas élu. J'ai beaucoup de désaccords avec lui. Mais comme je suis patriote, j'ai voté pour lui. Dans la tête des gens, dans la tête de toute personne, il y a un peu de Mélenchon, il y a un peu de Le Pen, il y a un peu de Bayrou, il y a un peu d'égologistes. C'est ça les Français. C'est ça les Français, à 50%. Celui qui arriverait à intégrer tout ça, tout ce qu'il y a de juste dans ce qu'ils disent, il ferait 50 ou 60%. Ben voilà, pour l'instant, le système l'a empêché. Eh ben, on en paye les résultats. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, je suis un patriote et je voudrais que ce pays s'en tire. Moi, quand je vois, par exemple, je suis dans l'opposition aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des choses que je condamne, à laquelle je suis en désaccord profond avec Hollande. Mais quand je vois la droite qui espère que la France coule, qu'il le dit, parce que pour eux, c'est bon. Comme hier, il y avait des gens à gauche qui espéraient que la France coule. Eh ben moi, non, jamais je serai comme ça. Je crois que dans l'histoire, jamais la gauche a fait aussi peu de promesses. La preuve, c'est que quand on veut citer des promesses, on n'en cite que deux. Ça prouve qu'il n'y en avait que deux. C'est-à-dire les 40 000 profs, et la deuxième, j'ai même oublié d'ailleurs. Ah oui, les 75% d'impôts. Enfin, elle a fait très, 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 très peu de promesses. Non. Hollande va faire une politique de rigueur, d'extrême rigueur. Bon, la droite devrait applaudir puisqu'elle a dit que c'est ce qu'il fallait faire, normalement. Elle va le condamner parce qu'on est dans un système de fous, on est dans un système de malades mentaux où vous allez voir, je vous fais le pari, que la droite qui a dit il faut faire une politique de rigueur et de coupe sombre dans les dépenses publiques, quand il va le faire, elle va être contre. Elle va les dénoncer. J'en suis sûr. Dans notre système, c'est comme ça. Il fait une politique de rigueur. Sur ça, il a raison. Mais il ne l'a pas dit. Fallait le dire. Fallait se présenter en disant, la situation est catastrophique, l'héritage est catastrophique, il va falloir faire des sacrifices. Je vous le dis franchement, ça va être difficile. Je vous raconte pas de blagues. S'il l'avait fait, les gens l'auraient accepté. Mais il l'a pas dit. Donc les gens vont dire maintenant, par exemple, il va faire des coupes dans les dépenses. Mais il l'a jamais dit. Bon. Donc première erreur, il va le payer, les gens dire, vous nous avez trahis. Deuxièmement, oui, faut faire une politique de rigueur profonde. Beaucoup plus important qu'on le dit. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une politique de relance. Il faut relancer la machine. Mais pour une politique de relance, il faut de l'argent. Or, il faut de l'argent pour réduire les déficits, car on ne peut pas continuer avec des déficits, une dette aussi lourde. Et il faut également de l'argent pour pouvoir relancer la machine économique. Donc, il faut une politique d'économie encore plus importante. Très bien. Donc, à mon avis, la politique d'économie est insuffisante. Mais surtout, je pense qu'il fallait faire un tiers d'augmentation d'impôts et deux tiers de réduction de dépenses. Or, il a fait l'inverse. Deux tiers d'augmentation d'impôts et un tiers d'augmentation de dépenses. Ça, c'est la deuxième critique. Et la troisième, c'est que tout ça, c'est bien beau. Mais pour aller où? Les gens, ils sont prêts. Bon, ils peuvent être prêts à faire des sacrifices. Ils peuvent être prêts à se mobiliser et à dire, bon, bah, y a un moment difficile à passer. Bah. Mais à condition qu'on leur dise pour faire quoi ? Pour aller où ? Quelle est la perspective ? Qu'est-ce qu'on va construire ? Si on ne leur dit pas, si c'est de la rigueur pour la dire la rigueur ou de l'austérité pour l'austérité, ça ne passera pas. Or, le grand défaut de Hollande, c'est qu'il n'y a pas de perspective. Il représente l'aile droite de la social-démocratie. C'est vraiment la droite de la social-démocratie. Or, le modèle aujourd'hui de société, mais il faut le changer. Mais tout le monde le sait. Mais même un enfant de 5 ans le sait. Ce modèle, il est absurde, il est irrationnel, il est immoral, il est usé. L'idée qu'on peut changer les choses à l'intérieur de ce modèle, ben, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Évidemment qu'il faut imaginer et construire un autre modèle, un total, où ça ne soit plus l'État qui soit au centre de tout, où ce ne soit plus l'argent qui soit au centre de tout, mais où ça soit l'humain qui soit au centre de tout. Il faut construire ce modèle. Or, pour la première fois dans l'histoire de la gauche ne propose pas un nouveau modèle. C'est quand même incroyable. La droite non plus, vous me direz. Mais la droite, elle n'a jamais proposé un nouveau modèle. Et donc, c'est terrible. Et donc, je pense que c'est ce qui fait qu'on est dans une impasse et qu'il faut inventer autre chose.
Une dernière petite question, Jean-François Kahn, s'il vous plaît. Schröder, chancelier Schröder, en Allemagne, il s'est un petit peu sacrifié quelque part. Oui. Est-ce que...
C'est ce qu'ils font, je vous signale.
Est-ce qu'on pourrait...
Non, mais c'est exactement ce qu'ils font, je vous signale. Ça, il faut quand même être juste. Ils n'ont aucune chance de gagner les élections... dans 5 ans avec les efforts qu'ils demandent, ils le demandent et ils seront battus. Donc c'est là, oui. Pour le coup, ils font comme Schröder.
Vous devancez un peu ma question. Effectivement, est-ce que Hollande va pas être le président qui va se sacrifier pour remettre la France sur les rails?
Oui, mais
Je pense
que quelque part, vous avez raison, je pense qu'il va se sacrifier et qu'il va être battu pour essayer de remettre la France sur les rails. Et je serais prêt à le soutenir si c'était ça, sauf que, à condition qu'on nous dise pour aller où. À condition qu'on ouvre des perspectives. Et ça, c'est pas son truc. Et ça, il n'a pas l'imagination, il n'a pas la dynamique qui le permet. Et
mais ça, se pose quand même le problème de la position des Françaises et des Français, parce que Sarkozy fait une politique de rigueur. Les Français. Mais
quelle politique de rigueur? Attends, vous foutez de ma gueule.
Il y a eu quand même de la rigueur.
Attendez, en 5 ans, 600 milliards de dettes en plus. Quelle politique de rigueur? Attendez, ça, c'est une espèce d'intoxication extraordinaire.
Quelle politique de rigueur? 600 000. C'est aussi de la rigueur, quand même.
Non, mais ça, c'est soviétique, ça, je veux dire. L'idée, c'est que dans certains endroits, faut les supprimer tous. Dans d'autres endroits, faut en remplacer 3 sur 4. Dans d'autres endroits, faut en engager. Attends, l'idée que mécaniquement, il faut pas en renouveler 1 sur 2, c'est une politique soviétique. Ça, c'est ridicule. C'est une espèce de machine. C'est absurde. En général, le déficit a augmenté, la dette a augmenté. On est à 92%. Là, c'est pas Hollande des 92% qu'elle en est arrivée cette semaine. C'est, pour le coup, c'est l'héritage de Sarkozy. Donc, quelle politique de rigueur? Simplement, il y a eu une complicité dans le mensonge. C'est-à-dire, la droite a dit qu'elle faisait une politique de rigueur alors que c'était pas vrai, et la gauche l'a accusée de faire une politique d'austérité alors que c'était pas vrai. C'est-à-dire, il y a eu une complicité dans le mensonge total.
Donc, c'est quand même les élites... Les élites peuvent craindre, par exemple, aussi la montée des extrêmes.
Oui, oui, ça, je crois. Je pense qu'il y a un vrai, vrai danger de monter du Front National, de l'extrême, dans 5 ans d'une victoire d'une droite en alliance avec le Front National, c'est pas exclu. Oui, absolument.
Jean-François Kahn, à l'instant sur Radion pour la catastrophe du 6 mai 2012, disponible chez Plon. Dans quelques minutes, rencontrez au château du Clos de Vougeot lors de la 5e édition de Livres en Vigne, grande fête du livre au cœur du vignoble bourguignon, vous pourrez entendre Olivier Barrault avec lequel nous parlerons d'histoire du cinéma français. Mais tout de suite, place à la chanson, voici justement un acteur et un chanteur, Yves Montand, et j'ai pensé que Les Feuilles Mortes étaient un air de circonstance en ce dernier jour du mois d'octobre.
Je te souviens. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de
Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Pour contacter Radion, 03 86 46 50 50. Radion.
Toujours à bord de Wagon Livre, votre magazine littéraire, nous vous faisons revivre, à travers des reportages, la 5e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 29 et 30 septembre dernier dans le grand salon Renaissance du Clos de Vougeot, ce joyau cerné de vignes entre Beaune et Dijon. Rencontre, cette fois-ci, avec le journaliste Olivier Barrault. Je lui ai demandé comment il parvenait à mettre en valeur les aspects essentiels d'un livre dans une séquence télévisée de 3 minutes qu'il présente sur France 3 depuis de nombreuses années. Un livre, un jour.
C'est un grand travail de synthèse, vous l'avez dit, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de poser des questions qui vont permettre aux téléspectateurs qui ignorent tout, évidemment, de l'ouvrage dont je reçois l'auteur, d'en percevoir, si je puis dire, l'enjeu, à la fois ce qui se passe, comment c'est raconté, à la fois, le, si je puis dire, la table des matières et le style. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, mais d'abord, c'est mon métier, je l'exerce depuis longtemps, et puis je trouve ça très excitant, moi, que d'essayer de donner envie, étant entendu que, bien sûr, on crée une frustration, parce que 3 minutes, c'est à la fois beaucoup et très court.
Alors, vous avez aussi une autre passion, c'est le cinéma, les actrices, les acteurs, puisque vous avez commis un certain nombre d'ouvrages, notamment avec Raymond Chirac, qui est historien du cinéma. Alors, voilà. J'ai feuilleté tout à l'heure la vie culturelle dans la France occupée, chez Découverte Gallimard, mais il y a aussi le gros dictionnaire dont je vais vous demander de rappeler l'intitulé exact, s'il vous plaît, Olivier Barrault.
Ça s'appelle Ciné-Club. Et ce sont 250 portraits d'acteurs et d'actrices du cinéma français, en gros du début du parlant, vous voyez, vers de 1930 jusqu'à, je dirais, l'avènement de la nouvelle vague, 1960. C'est donc très largement un cinéma en noir et blanc, mais en même temps un cinéma extraordinairement prestigieux, dont on aime toujours revoir les films, les éléments, ça crée à la fois de la nostalgie, du souvenir, et puis je crois que ça précise auprès des lecteurs ce qu'ont été les carrières de ces gens dont on connaît souvent le visage et pas forcément le nom, vous voyez, puisque dans cet ouvrage, il y a à la fois les vedettes, bien sûr, mais aussi, et au moins autant, les acteurs dits de complément, les acteurs de second plan qu'on aime tellement, Raymond Chirac et moi, et sur lequel, de fait, on a écrit beaucoup.
Alors, les petits tes coups de cœur, actrices et acteurs préférés?
Alors, il y a deux catégories. Il y a les gens très connus, bon, et puis les gens moins connus. Alors, dans les plus connus, moi, j'ai toujours professé une immense admiration pour Daniel Darieux. Daniel Darieux, elle est née en 1917, hein, ça n'est pas être discourtois que de le rappeler, c'est-à-dire qu'elle a 95 ans aujourd'hui. Elle ne joue plus beaucoup, mais elle a joué encore et au cinéma et même au théâtre jusqu'à il n'y a guère. Et il me semble que Darieux, c'est une grâce, un esprit, une capacité à la fois à jouer la comédie, à chanter merveilleusement.
L'instant du dernier rendez-vous, me semble-t-il.
Absolument. Ah, qu'il doit être doux et troublant. L'instant du premier rendez-vous. Mais oui, bien sûr, on a les mêmes références. C'est ce grand film de 1941 dans lequel elle chantait ça. Et c'est une chanson de René Silviano et Louis Potras. Il faut toujours rappeler le nom des auteurs des chansons qui nous ont fait rêver. En tout cas, vous et moi, peut-être pas à l'époque parce qu'on n'était pas nés, mais ensuite. Donc Darieux, c'est la grâce. Elle aurait pu, si elle avait voulu mener une carrière hollywoodienne, elle a été sollicitée d'ailleurs, ça n'a pas été très concluant, mais elle avait toute la grâce, toute l'intelligence des grandes actrices de comédie, comme Irene Dunne ou Catherine Hepburn, je crois. Voilà. Alors par ailleurs, je vais vous citer des gens moins connus, une actrice moins connue que je trouve admirable, qui s'appelle Gabrielle Fontan, qui figure dans notre livre, qui a l'air d'une petite souris comme ça, discrète, etc., qui a souvent joué les domestiques, les gouvernantes, et qui est une actrice d'une finesse et d'une intelligence absolument épatante. Voilà pour les femmes. On pourrait dire la même chose pour les hommes.
Et alors pour des acteurs, alors des Gabin, des Pierre Frenet,
oui,
par exemple.
Alors, ne m'en veuillez pas, moi je vais vous parler de Jules Berry. C'est un acteur, comment vous dire, plein de fantaisie et impossible à circonscrire. Vous savez, il n'apprenait que très approximativement les textes, que ce soit d'ailleurs des pièces de théâtre qu'il interprétait au boulevard. Ça a été une immense vedette de théâtre dans les années 20 et 30. Et alors au cinéma, c'est la même chose. Il improvisait, il avait ce talent qui désarçonnait ses partenaires, mais ce talent extraordinaire d'improviser. Et quand on le voit par exemple dans Le Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir, qui est un film absolument admirable de 1935, on voit bien que certains de ses partenaires sont désarçonnés. Mais peu importe. Dans Le Jour se lève de Marcel Carné, il est admirable. Bien sûr, dans Les Visiteurs du soir, où il joue le diable, ce qui lui va très bien, parce qu'il y avait quelque chose de diabolique chez Berry. Alors maintenant, il faut que je vous cite un acteur de second plan moins connu que Berry. Ben, je vous citerai Jean Brochard, qui a fait une énorme carrière au cinéma. Un acteur dont vous trouverez le portrait et tout le monde va dire « Ah mais oui, c'est lui !» etc. Bon, c'est un acteur absolument formidable, d'une sûreté. C'est d'aussi bonne qualité que François Perrier. Il avait le même type de physique, vous voyez, pas très spectaculaire, mais une justesse dans l'interprétation et un esprit admirable. Il y en a 250 comme ça.
Alors, Olivier Barraud, parlons de votre roman chez Gallimard. C'est pas un roman,
non, c'est pas
Le
un
Fils
roman.
Perdu. Alors, Le Fils Perdu, qu'est-ce que...
Oui. J'ai tenu à ce que cet ouvrage ne soit pas qualifié. Sur la couverture, vous ne verrez pas roman, récit, etc.
C'est très surréaliste. Vous ne voulez pas non plus qu'on colle comme ça.
Non, j'aimerais pas qu'on catégorise, parce qu'en plus, le qualifier de roman serait vraiment un abus. C'est un récit qui est évidemment très lié à ma propre expérience, puisque je dis « je », chose que je n'ai pratiquement jamais faite jusqu'à présent, et que je raconte des choses qui sont liées évidemment à l'enfance, et plus particulièrement dans ce cas-ci, au fait que j'ai vraiment le sentiment d'avoir été... comment dirais-je, entraîné dans tout ce qui est littérature, spectacle, culture, sont des choses qui comptent énormément pour moi, j'ai fait ma vie professionnelle, en particulier un père qui avait les mêmes goûts, mais qui avait cette particularité de ne jamais s'exprimer. J'ai vraiment l'impression qu'il ne m'a jamais parlé, non pas du tout par indifférence, c'est absolument pas le cas, mais par timidité, par impossibilité à sortir de lui-même. Ce qui fait que j'ai espéré quelque chose qui n'est jamais venu, c'est-à-dire un véritable échange, une vraie conversation par les mots. Elle se passait autrement, elle se passait par les livres, elle se passait par les incitations qui venaient de lui. Et dans cet ouvrage, je raconte ça, c'est plutôt un règlement de compte, c'est même un peu l'inverse. Je dis ce que je lui dois et comment j'ai essayé de m'en sortir en adoptant, entre guillemets, des paires de substitution. Alors, je fais le portrait d'un certain nombre de ces gens qui m'ont eux aussi beaucoup apporté. Certains sont très très célèbres et d'autres ne le sont pas, mais peu importe. Ce qui compte, c'est comment je m'en suis sorti et comment j'ai pu comme ça essayer de, de faire passer mes propres goûts, mes propres passions à travers les différents métiers que j'ai exercés, notamment le journalisme, qui est essentiel, qui est le premier d'entre eux.
Olivier Barreau, à l'instant à notre micro, Le Fils perdu est donc son dernier livre disponible chez Gallimard. On se retrouve d'ici quelques minutes avec François Huguenin pour Les Voix de la foi, paru chez Perrin, une anthologie pour comprendre plus de 2000 ans d'histoire du catholicisme en Occident. Ce sera aussi l'occasion de demander à François Huguenin comment l'Église de France va se positionner dans le débat sur le mariage homosexuel. Pour l'instant, petite escale musicale avec A Day Without Rain par Enya. Bonne soirée sur Radion. Un instant sur votre radio locale, la suite de Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi à 21h, 90.5 en modulation de fréquence ou alors en direct aux quatre coins de France, d'Europe ou du monde sur le www.radion.fr. Historien des idées, François Huguenin était présent à Livres en Vigne. Il vient de faire paraître aux éditions Perrin Les Voix de la foi, une sorte de Lagarde et Michard du catholicisme. François Huguenin nous présente cette anthologie du catholicisme.
L'idée, c'est effectivement de présenter au lecteur, d'une manière historique, donc chronologique, le patrimoine théologique, spirituel, historique du catholicisme des débuts, c'est-à-dire juste après la mort de Jésus-Christ, jusqu'à nos jours.
Parce qu'on a les textes même de Benoît XVI. Hein,
on va jusqu'à Benoît XVI, jusqu'à Jean Vannier, jusqu'à des gens même vivants aujourd'hui. Hein. Il y a trois vivants dans cette anthologie qui sont le pape Benoît XVI, Jean Vannier et le théologien jésuite Gustave Martelet. Et puis, on se balade des pères de l'Église aux grandes encycliques du XIXe et du XXe siècle, en passant par les grands théologiens comme Thomas d'Aquin ou les grands mystiques. Thérèse d'Avila ou bien des beaucoup moins connus. L'idée, c'est de permettre au public chrétien, catholique...
C'est ça, pardonnez-moi, c'est que finalement, ce livre s'adresse alors ou à des étudiants, peut-être en histoire, qui auraient besoin vraiment de se remettre à niveau par rapport à une culture chrétienne qui s'est beaucoup perdu en France.
Tout à fait.
Donc c'est quand même un ouvrage, Les Voix de la foi. Bon, le titre parle de lui-même, mais c'est un livre à destination d'un public chrétien.
Alors, il y a deux destinations, parce que c'est un livre qui est à la fois le livre d'un croyant, ce que je ne cache pas, je suis catholique romain, mais c'est aussi le livre d'un historien. Donc, ce que j'ai voulu, c'est... Je vise deux publics, si vous voulez. Les catholiques qui n'ont pas le temps, n'ont pas toujours la culture nécessaire, n'ont pas eu le temps de développer des heures de lecture pour connaître tout le patrimoine qui est celui du catholicisme. Et je crois que sans la compréhension de la profondeur de champ, on est mal à l'aise par rapport à un certain nombre de questions contemporaines. On a tout intérêt à relire la grande tradition de l'Église et on peut faire son miel de tel ou tel auteur. Et puis pour ceux qui sont un peu en marge, mais que l'idée de Dieu, que la grande culture catholique... intéresse, titille, eh bien, je trouve que le biais historique est intéressant. C'est une histoire que je leur propose et une histoire dans laquelle je les guide, puisque chaque texte est introduit par un petit commentaire qui présente l'auteur, le contexte et l'enjeu du texte. Et puis il y a quatre grandes parties, qui sont les quatre grandes parties chronologiques de l'histoire du catholicisme, que j'introduis en une dizaine de pages, pour que le lecteur puisse comprendre les grands enjeux de la période. Et dans ce livre, je balaye trois grands territoires, ce que j'appelle l'intelligence de la foi, ou ce que Newman appelait le développement du dogme, comment la pensée du catholicisme s'est petit à petit construite, le rapport au monde et aux autres, qui est extrêmement important, et là on a des questions politiques, sociales, de grande importance, et puis, dernier point, la mystique, c'est-à-dire le rapport de l'homme à Dieu. Et là, je pense qu'en 200 textes et tout ce que j'ai pu y mettre autour, on a une vision à la fois historique dans son mouvement, mais aussi thématique assez complète de ce qu'est en fait le catholicisme.
Alors il y a effectivement des textes, donc vous l'avez dit, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, donc les pères de l'Église, Bernard de Clairvaux, François d'Assise, Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Juste une question d'actualité, comment l'Église française notamment va-t-elle trouver sa place face à la loi qui risque d'être votée en 2013, la loi instituant le mariage homosexuel dans notre pays?
C'est une vraie question de société aujourd'hui. Je crois que l'Église, dans son ensemble, parle de manière assez claire, que l'Église de France, par l'intermédiaire du président de la conférence des évêques de France, le cardinal 23, archevêque de Paris, ou du cardinal Barbarin, primat des Gaules, cardinal archevêque de Lyon, a parlé de manière très, très forte. On a pu reprocher à ces évêques parfois d'avoir été, d'avoir parlé fortement, mais peut-être qu'on est aujourd'hui trop dans une civilisation où on édulcore le débat. Le débat est important. Il faut savoir que quelle que soit la foi qu'on a ou qu'on n'a pas, nous sommes dans une civilisation qui est foncièrement, qui a été marquée et construite par le catholicisme. À cet endroit, au château de Clovougeot où nous sommes, qui est un fleuron de la civilisation par les vins qui y sont produits, mais on voit bien que c'est pétri de catholicisme. Ce sont les moines qui ont fait ce terroir-là, qui ont fait ce bâtiment dans lequel nous sommes. La nature humaine se construit dans la culture. Et donc, il faut faire très attention. Si on change de manière radicale et de manière, je dirais, pusillanime les lois du mariage, on risque de profondément bouleverser pas seulement un système de foi et de croyance, auquel moi, effectivement, je tiens, mais un système de société. Et notamment dans cette idée toute simple qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et ceux qui promeuvent ce projet de loi du mariage homosexuel me paraissent bien inattentifs à la douleur des enfants qui ont eu la peine de perdre un de leurs deux parents et qui n'ont pu être élevés que par un homme ou par une femme et qui savent ce qui manque en termes d'affection à un enfant. Et je crois qu'il y a malheureusement trop d'idéologie et qu'il faut revenir à une conception réaliste, saine, non idéologique de la nature humaine. Et je crois que c'est une des grandes qualités de l'Église catholique, encore une fois, quelle que soit sa propre croyance, ses propres convictions de foi, un des grands mérites de l'Église catholique de prendre l'homme tel qu'il est et d'essayer de l'accompagner sur un chemin d'humanité.
C'était François Huguenin pour Les voies de la foi, anthologie du catholicisme en Occident, disponible aux éditions Perrin. C'est la fin de ce compte-rendu de la 5e édition de Livres en Vigne 2012. Je voudrais d'ailleurs saluer très chaleureusement l'organisatrice de ce très beau rendez-vous culturel et littéraire bourguignon. Je voudrais effectivement saluer Evelyne Philippe. Avant de nous séparer, quelques informations culturelles. Sachez que ce samedi 3 novembre à 13h30 à la salle Colabrunion, à Clamecy aura lieu la traditionnelle dictée de l'oncle Benjamin organisée par la médiathèque François Mitterrand. Pour vous y inscrire, vous prenez contact par téléphone au 03 86 27 16 70. Toujours ce samedi 3 novembre, c'est à Auxerre, cette fois-ci au 53 rue du Pont, et c'est à la librairie La Pieuvre. Ce samedi, effectivement, la librairie La Pieuvre reçoit le dessinateur Claude Plumaille, qui dédicace ses albums BD. C'est de 11h à 12h30 et de 14h à 17h à la librairie La Pieuvre. Pour toute information, vous pouvez là aussi prendre contact au 03 86 47 77 04. Et puis ce week-end, en Côte d'Or voisine, n'hésitez pas, samedi 3 novembre, dimanche 4 novembre, à vous rendre à la fête du livre de Saulieu, c'est à l'espace Jean Bertin, de 10h à 18h, durant les deux jours, donc un grand nombre d'auteurs et d'éditeurs seront présents à cette fête du livre de Saulieu pour faire connaître leurs œuvres et leurs productions. Nous y serons nous-mêmes pour y enregistrer des reportages et des interviews que nous vous proposerons dans une émission Wagon Livre de compte rendu du Salon du Livre de Saulieu le 14 novembre prochain. Voilà, l'invité d'honneur du Salon du Livre de Saulieu, c'est Gab, qui est dessinateur de presse, notamment à La France Agricole. On aura l'occasion de vous le présenter dans notre émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 7 novembre à 21h toujours sur Radion, pour une émission consacrée à la Grande Guerre. Effectivement, à quelques jours des commémorations de l'armistice 1918, nous recevrons Rémi Porte, officier historien, enseignant à l'école militaire de Paris, et il est l'auteur d'un livre intitulé « Les secrets de la Grande Guerre » paru aux éditions de la librairie Vuibert. On aura l'occasion avec Rémi Porte de parler du pantalon rouge de nos fantassins. Ce pantalon rouge qui a été tant décrié et qui peut-être a provoqué l'hécatombe des mois d'août-septembre 1914. Nous parlerons aussi du premier mort de la guerre le 2 août 1914, un jeune caporal de 21 ans, le caporal Peugeot. Nous parlerons aussi de l'épisode des taxis de la Marne et nous reviendrons sur les débuts de la guerre sous-marine. C'est mercredi prochain à 21h avec Rémi Porte, officier historien, pour un livre intitulé « Les secrets de la Grande Guerre ». Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur Radion. Au revoir.